Bonjour Vincent.
Très bien, salut Xavier.
Donc tu es guitariste leader dans Deep in Eight.
Tout à fait, voilà, je suis l'un des membres fondateurs. Donc on a commencé cette petite aventure en novembre 2003. J'ai contacté donc Nicolas Bastos, hein, qui officie aussi dans l'esprit du clan depuis quelques années maintenant. Donc le premier line-up opérationnel de Deep in Eight a été donc mis en place à partir de mars 2004. Donc, tu vois, il a fallu quand même déjà quelques mois avant de trouver nos marques. Mais donc, le groupe existe vraiment officiellement depuis mars 2004, c'est-à-dire depuis 7 ans maintenant.
Et dès le départ, vous étiez sur une orientation brutal death technique?
Alors, oui et non. On était, moi, à l'époque déjà... En fait, à l'époque, j'avais repris des études, j'étais en faculté de musicaux. En fait, moi, ça faisait déjà un petit moment depuis fin 2002, début 2003, que j'avais découvert des groupes comme Meshuggah, Gojira pour leur premier album. C'est grâce un petit peu à ce courant-là que finalement, je suis arrivé à taper dans le brutal death. Parce que c'est vrai que j'écoute du métal depuis que j'ai 12 ans. J'avais jamais au départ vraiment accroché à tout ce qui était extrêmement violent. Moi, c'était vraiment, tu vois, genre de Korn à Pantera, en passant par des groupes un peu plus underground. Mais donc, en fait, j'ai fait plus ou moins mon incursion dans le death et brutal death grâce à Gojira, Decapitated. Donc, ces deux groupes-là qu'on s'est fait découvrir mutuellement avec Vassos. Enfin, au départ, on avait vraiment développé un mix entre ce qu'on peut appeler aujourd'hui du deathcore. Sauf que le deathcore de notre époque n'avait pas forcément la même vocation qu'aujourd'hui, ni la même écriture. Quand tu écoutes notre premier maxi 3 titres, je pense qu'il est trouvable, hein, sur un téléchargement, même sur Emule, tout ça, bah, tu vois clairement qu'il y a des passages beatdown, mais à l'ancienne, style Archangel, un peu, par exemple, je sais pas, Kickback, des trucs comme ça, et t'as des plans death relativement simples, mais qui les gens voyaient bien à l'époque. Et puis, en fait, il nous a un petit peu déconcerté après les premiers concerts, après les premières chroniques du maxi, etc., c'est ce côté... Il y a un peu trop de death pour les chorus et il y a un peu trop de hardcore pour les donc à force de dire ça dans 10, 15, 20 chroniques, ouais, on a pris un penchant, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, c'est soit on bascule dans le metal hardcore, soit on bascule dans le death, hein. Et puis comme on avait envie de se prouver des choses et puis effectivement on en voyait déjà plutôt pas mal, ben on a décidé de vraiment enfoncer le clou et d'adapter d'adopter plutôt une image death et on a vraiment marqué le coup et techniquement on a mis la barre assez haute, je trouve, pour le premier album en fait qui est sorti en 2007.
Et comment ça se travaille justement tout ça, parce que niveau des compos déjà ça doit être un peu chaud à écrire et puis derrière après à réaliser pour que tout le monde soit bien carré, ça doit demander pas mal de répétitions.
Oh bah, tu sais, on commence toujours par là, mais si tu veux, quand je te dis qu'on est vraiment parti de rien, les premières répètes se passaient entre une chambre de peut-être, je sais pas, 10-15 mètres carrés, qui était donc pas ultra la suisse en brie chez Nicolas qui habitait là-bas à l'époque. Et de temps en temps, on allait au Minarossa à Paris parce qu'on n'avait pas d'autre solution, mais à l'époque, je faisais beaucoup de choses. Alors que je composais sur Guitar Pro, des démos, on maîtrisait pas à l'époque tout ce qui était Cubase et tout, on aurait dû peut-être s'y mettre plus tôt, mais on a attendu un moment avant de s'y mettre. Donc c'était des enregistrements sonores avec un mini-disc ou des trucs comme ça. Et c'était long, c'était dur, et le premier album, on l'a vraiment fait dans la douleur, parce que même au niveau des conseils, on savait pas quel matériel acheter, comment travailler, on a fait un petit peu tout à tâtons, et finalement, avec ce premier album, on a quand même été distribué à pas mal d'endroits. Et surtout, la plus grosse com qu'on ait pu faire, c'est ce fameux passage à plusieurs reprises sur Virgin 17, qui n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, c'était Metal Nation. Et sur Ultra Metal de MCM, qui, je crois, n'existe plus non plus. En gros, en ce moment, en France, je crois qu'il y a plus de programme Metal. Voilà comment on s'en est sorti, mais on regrette finalement de ne pas avoir eu des conseils. On regrette aussi de ne pas avoir fait une grosse production sur cet album-là, parce qu'avec les compos qu'il y avait, je pense qu'on aurait pu dépasser un petit peu les frontières de l'Île-de-France et du nord de la France et de la Belgique, parce qu'on n'a pas été plus loin pour le premier album. Contrairement au deuxième, on a déjà 3-4 dates dans le sud de l'Atlantique, hein, sur des 12-13 dates qui s'enchaînent pour le deuxième album.
Justement, ce deuxième album, par contre, aucun regret, Origins of Inequality, vous avez un son qui cartonne quand même super fort.
Ouais. Écoute, non, pas de regret dans sa globalité. Après, les mecs, si tu veux, les mecs ont une vision des choses qui est très très globale, qui est très en rapport avec la mienne. Mais sur le son lui-même, sur la façon dont j'aurais perçu, tu vois, un petit peu le rendu. Moi, j'aurais fait un mixage un peu différent. Mais si tu veux, ça a été un petit peu pour pallier à tout ce qu'on a pu nous dire à travers toutes les chroniques. Je crois qu'il y a dû avoir 29 chroniques en tout du premier album, magazine et webzine compris. Et c'était le son froid, le son clinique, le petit son. Donc on a voulu, si tu veux, faire du super organique, tout en gardant cette côté vitesse d'exécution, ce côté chirurgical. Et donc le résultat est vraiment au rendez-vous. Après, on va essayer de trouver une alchimie pour le troisième album qui donnera un côté peut-être un peu plus mécanique, peut-être un petit peu plus froid, mais qui pourra correspondre, je pense, encore plus au style qu'on fait. Mais bon, moi, j'ai pas de regrets. Je trouve que l'album est génial. Après, bah toi, en tant que musicien, quand tu composes, tu te dis toujours, ah bah finalement, j'aurais peut-être pu faire ci et ça à tel endroit. Donc, je pense qu'à un moment donné, faut pas regretter, faut pas réfléchir, faut foncer une fois que vraiment tout est fait, quoi. Et puis en même temps, j'ai envie de te dire, dans le style qu'on fait nous, dans le côté assez extrême et assez réfléchi, le côté new school, vraiment, mais j'insiste là-dessus, la nouvelle école qui est en place aujourd'hui depuis 2004-2005 avec les arrivées de Die Five Icon, Minnie the Massacre et tous ces coups-là, on n'est pas nombreux en France à faire cette branche-là. Les groupes comme nous, je les connais, il n'y en a pas 30 000, il y a Upheaval et Anchor, qui sont dans la même veine, voire même encore plus fous, encore plus barrés. En dehors de ces, on va dire, 3-4 groupes, on n'est pas beaucoup, si tu veux, pour moi, à faire les efforts nécessaires, à avoir la patience aussi de composer dans ce style-là et à se prendre la tête sur des morceaux relativement complexes, même si nous, on a quand même une vocation à avoir des couplets-refrains. Même si ça paraît un peu fou de dire ça, mais on essaye d'avoir quand même des couplets-refrains dans nos chansons, et ça, c'est une vraie demande de Nico, le batteur, qui est membre fondateur comme moi. Mais on est les deux seuls membres originels aujourd'hui du line-up. Et c'est ça, vraiment lui, là, il insiste pour qu'il y ait ce côté couplet-refrain, et finalement, je pense que c'est ce qui plaît aussi un petit peu aux gens, quoi.
Au niveau des paroles, qu'est-ce que ça raconte, vos chansons?
Origin of Inequality, ça raconte beaucoup de choses. J'avoue que j'ai pas composé les textes, donc je pourrais pas, enfin je les connais plus ou moins, mais en gros, on a eu envie de déterminer que on partait pas forcément tous du même point, on n'arrivait pas forcément tous au même point, et que les origines de l'inégalité, c'est un petit peu ce qui fait aujourd'hui notre condition humaine, tu vois. C'est-à-dire que à travers les textes des chansons, à travers un petit peu l'universalisme, si tu veux, de la race humaine, on se rend compte que on ne part pas d'un même point, on finit pas d'un même point, que chacun a ses chances, chacun développe sa vie comme il l'entend, et ça n'a pas toujours les mêmes résultats. Par contre, voilà, telles incidences, telles actions auront telles incidences, et c'est ça qu'on a voulu un petit peu traduire. Alors après, t'as des cas de figure spécifiques en fonction des noms des chansons qui ont été choisis, parce que il y a eu des cas de figure perso de chacun des membres. On a tous eu des choses difficiles à vivre chacun de notre côté, et puis je pense que Mathieu a su un peu synthétiser tout ça, quoi. Voilà, par exemple, je te parle de Four of Others, qui est une compo acoustique qu'on a voulu simple, qu'on a voulu sans chant, qu'on a voulu totalement instrumental et acoustique, parce qu'on voulait montrer aussi qu'on est capable de faire autre chose. Et puis que c'est aussi une dédicace à nos propres pères de famille, et parce que j'ai perdu aussi moi perso mon père il y a 2 ans et demi, et puis voilà, je pense que je lui dois beaucoup, chacun de nos pères on doit beaucoup, enfin on parle pour nos 4 persos, mais je pense qu'on a tendance à souvent rappeler que voilà, tu vois, le jour de la femme, la fête des mères, etc., mais on oublie aussi souvent que il y a le père, et pour nous c'est important de rappeler ça. Alors après, chacun l'interprétera comme il a envie, quoi. Tu vois, ça peut être un père spirituel comme ton proche père. Je sais pas. Enfin, voilà, c'est un peu la. Voilà, c'était un petit peu un mélange de chacun de nos nos émotions, chacune de nos émotions qu'on a voulu mettre dans cette acoustique. Bon, puis après, t'as toute la partie. Bon, le botanizing de MySys, c'est ce qu'on a clippé, c'est clairement sur la lobotomisation des religions et tout le prosélytisme aujourd'hui qui est fait autour de ça.
Pourquoi avoir choisi ce titre-là en clip, justement?
Parce qu'on pensait que c'était la plus folle. Alors en même temps, c'est une chanson qu'on a eu du mal à mettre en place au départ. Et puis parce que, on en a passé pas mal en revue. Je t'avoue que pour la petite confidence, on est obligé de faire un vote au chapeau pour décider laquelle on allait clipper, quoi. Je pense qu'on va essayer de retravailler peut-être avec Vincent ou Giorgetti. On aimerait bien retourner un clip au mois de novembre pour refaire buzzer un peu l'album. Parce qu'un album, en général, ça a un an et demi de vie à peu près. Donc on est très content de ce qu'il a fait, on est très content de le ressenti et de la photo, quoi, de la photo, de l'image que ce qu'il a dégagé. Et puis voilà pourquoi on a choisi cette chanson là et puis en même temps il y a à la fois le vote, à la fois le coup de cœur qui a penché dans la balance.
Dans le clip, on vous voit avec des gros plans sur chaque musicien, sur la batterie, c'est super, c'est vraiment impressionnant, notamment quand il tape de façon, il est à 2 cm de ses fûts, ça va super vite. Les parties de typing aussi, c'est toujours visuellement très fort. Vous faites un petit peu plaisir de temps en temps sur scène, ou est-ce que c'est une extrême concentration pour vous, pour justement pas vous louper?
C'est une bonne question. Après, parce que tu parles de, par rapport au plan de batterie, c'est ce qu'on appelle un gravity blast. C'est une technique qui vient du jazz et puis qui a été repris après tout ce qui est métal, etc. Je te cache pas que des fois sur scène c'est un peu compliqué, mais en même temps on répète tellement, on prend la tête pour mettre ça en place que il y a des moments où faut qu'on soit concentré. Mais déjà, quand tu vois des groupes comme The Faceless ou des groupes comme Billy the Massacre avec qui on a joué récemment, là tu te dis tu sais que les mecs ils font que ça, tu vois, et nous on essaye, malgré le fait qu'on ait des activités, qu'on soit obligé de bosser, tout ça, on essaye de se rapprocher de cette mentalité. C'est-à-dire, dès qu'on peut, c'est la grappe dans les mains, etc. Mais par contre, c'est sûr que on peut pas comparer. Même si demain, je bossais toute la nuit, on bossait toute la nuit, on faudra vraiment qu'on puisse faire que ça de la journée. Et malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Si tu veux, on est conscient de notre niveau. Après, on sait qu'on a encore à se remettre en question. Alors oui, c'est vrai que peut-être par rapport à tout ce qui est franco-français, on a mis la barre relativement haute, mais on est loin d'être les meilleurs. Et en même temps, quand tu vois les Américains ou les Canadiens, c'est là que tu te rends compte qu'il y a encore du chemin à faire et que ces mecs-là sont déjà arrivés à un level, voire deux au-dessus. Enfin, tu vois, quand tu vois les mecs là, avec Ken Naturel, ils enchaînent des plans, toi tu vas être là, mais je sais pas combien de temps intellectualiser. Tu vois, c'est, pour moi, c'est le vrai problème en France. On est toujours un peu décalé. Alors, technologiquement, on n'a plus rien à leur envier. Moi, j'étais là-bas l'année dernière pour les vacances, les chartons cette année. Après, musicalement, ils auront toujours, je pense, un petit niveau au-dessus de nous. Et parce que c'est la culture, et puis parce que les mecs, à un moment donné, se disent, on fait que ça. Alors après, ça a peut-être des incidences dans le temps, mais tu vois, c'est, en tout cas pour le métal, j'entends. Métal. Après, je ne connais pas trop comment ça se passe au niveau des autres structures musicales, des autres domaines musicaux, mais en tout cas, il y a encore un petit fossé en France, et au-delà de parler du côté extrême en France qui est vachement censuré, quoi. Enfin, je vais un peu loin, mais j'espère que tu auras compris ma réponse dans sa globalité, quoi.
Sur votre page MySpace, on peut voir que vous avez déjà plusieurs dates de Calais pour cet été, et puis après ça reprend à la rentrée. Vous avez d'autres choses sous le coude ou pas?
Il y en a pas mal qui sont passés, je t'avoue. On a fait quand même récemment, on a fait le Blazard, on a joué au Nouveau Casino aussi avec Billy the Massacre, avec Eternal, tout ça. On a un gros festival, on nous attend, c'est donc le Triel Open Air, qui est donc une quinzaine de jours après le Hellfest, où il y a en général entre 500 et 600 personnes attendues chaque année. Et on va jouer avec Decapitated, justement. C'est un petit peu le destin, et franchement, c'était inespéré, dans le sens où, effectivement, suite au décès du batteur et du chanteur, sur un accident de tournée, on ne pensait pas que les mecs allaient remonter le groupe, quoi. Donc, il se passe pas mal de choses. Moi, je m'occupe justement du booking. Et il y a pas mal de choses sur le feu parce qu'on se rend compte au-delà de d'avoir fait des efforts, d'avoir travaillé 2 ans et demi, que cet album il parle aussi aux professionnels et notamment à pas mal de mecs qui font dans le milieu depuis 15-20 ans, qui ont des grosses structures. Je pense à des mecs comme Ken qui s'occupe à la fois des Euroken de Belfort et à la fois d'un festival qui s'appelle Impetus, qui est un festival métal qui ressemble un petit peu à tout ce qui est Trial Open Air, mais des festivals comme ça. Bon, évidemment, c'est pas des festoches qui sont aussi gros que des Hellfest ou des Dynamo, mais il y a des choses relativement importantes, quoi. À peu près, c'est presque les mêmes staff qui travaillent sur les Euroken que sur ce qui est de Presta Metal. Et donc, ça fait plaisir parce qu'on dit que avec le temps, on va arriver à marquer des points. Alors, par contre, je te cache pas que j'ai commencé à composer pour le troisième opus, dans le sens où on voudrait éviter de perdre de temps vis-à-vis du deuxième album. On a mis pas mal de temps à sortir parce qu'on n'a pas commencé à composer tout de suite quand on a fait les dates du premier. On a attendu un petit moment. On a eu, comme beaucoup de groupes, des soucis de line-up. Tout ça, ça fait perdre du temps. Et finalement, on aura mis un peu plus de 3 ans et demi à sortir le deuxième, quoi. En fait, les gens disent 2007, mais le premier album, il est sorti officiellement le 4 janvier 2008. Donc, tu vois, on aura fait 3 ans. 3 ans. Pour sortir le deuxième. Mais oui, il se passe pas mal de choses. Si tu regardes un peu le Facebook, tu verras que tous les jours, il y a des nouvelles chroniques qui tombent, des affiches, il y a des news. Et puis, des témoignages des gens, quoi, qui te disent, il y a quoi, il y a 2 heures, un mec qui dit, putain, je viens d'acheter l'album. Ça, pour nous, c'est important, tu vois, ce qui est important pour nous, c'est de se dire, putain, les mecs ont été achetés du brutal bass quand même, tu vois, même si après, on est basse, on est quand même très polyvalent en termes d'influence. Tu dis, les mecs, ils ont fait l'effort d'aller acheter ça. Ça fait plaisir parce que, déjà, le métal est censuré en France et en même temps, il y a ce côté assez extrême, tu vois, qui a encore du mal à, tu le sens en concert que, t'as encore du mal à passer certaines frontières.
Pour terminer nos interviews cette année, on a une question qui est une sorte de rêve impossible. Si on te donnait la possibilité de collaborer avec un artiste ayant existé, quel que soit le domaine artistique, donc qui serait cet artiste et quel serait ton projet?
C'est une question un peu difficile. Si on reste dans le milieu, mais je pense que j'aurais vraiment beaucoup apprécié faire une chanson acoustique avec Kurt Cobain, parce que j'aimais beaucoup Nirvana quand j'étais plus jeune. Après, j'ai évolué guitaristiquement parce que j'ai fait beaucoup de techniques, donc forcément après tu te changes d'orientation. Et je pense que je rêverais aujourd'hui d'avoir ne serait-ce que Buffé avec Jim Black Darrell de Pantera qui reste mon groupe favori quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, si c'est pour des artistes disparus, c'est pas très original, mais voilà ce que j'ai à répondre sur l'instant, parce que c'est un petit peu les influx que j'ai eus, et je reste très fan de Pantera. J'ai quelques vinyles collector, tout ça, j'ai gentiment mis de côté, donc ouais. Voilà, en gros, ça aurait été un espèce de délire un peu fou, donc voilà.
Un mot que tu souhaiterais ajouter?
Vive le métal, j'ai envie de te le dire, c'est un peu simple, mais j'espère que ça va évoluer dans le bon sens, qu'on va avoir de plus en plus d'ouverture en France, et puis que ça va continuer comme ça, quoi, que le mouvement va prendre de l'ampleur, qu'on va évoluer, et puis qu'on va avoir une espèce de reconnaissance statutaire avec le temps, quoi, qu'on va être... T'as bien vu, hein, que ça avait évolué là, avec le député qui est décédé récemment.
J'y crois,
ouais. Ouais. C'est quand même beau qu'un mec réussisse à parler du métal à l'Assemblée nationale. Ouais, je trouve ça assez génial, en fait. Voilà pour le mot de la fin.
Bah, merci beaucoup.
Mais je t'en prie, merci à toi, Xavier. Merci à toute l'équipe de l'Autre Monde.